Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir non seulement à l'actualité dramatique mais également théâtrale avec dans les scènes de la vie conjugale de la critique Fabienne Pascaud de Télérama, Armelita Armelio du Figaro, Gilles Costas de Politis, Jacques Nerson de L'Obs pour parler ce soir de deux films devenus deux pièces, La règle du jeu et Scène de la vie conjugale, mais également de deux classiques modernes, pourrais-je dire, c'est-à-dire La Mante anglaise de Duras et La tragédie du roi Christophe de Césaire, et puis côté boulevard, Bankable et Un animal de compagnie dans le courrier de la semaine. Eh bien, Svetlana Bliznichenko n'est pas contente. J'ai écouté votre critique du petit maître corrigé à la Comédie française et j'en suis révolté. J'appréhendais de trouver une mise en scène classique pour ce Marivaux, pas de première jeunesse, en effet. J'ai été très agréablement surprise par la modernité et la vitalité que cette pièce dégage. Le jeu des acteurs est superbe. Je suis outré de vous entendre démolir une pièce aussi belle et de cette qualité. Et puis, l'avis est identique de la part de François Dugy-Pina. Quelle bonne idée de remonter cette pièce de Marivaux qui ne méritait pas le purgatoire. Tout est à louer dans le spectacle de la Comédie française et avant tout Alice Dermy et Christophe Montenez dans les rôles des serviteurs. Je ne partage pas du tout les réserves de Fabienne Pascaud, membre active de la secte Claude Régis, ça c'est vrai, et admiratrice inconditionnelle des adaptations interminables de Christiane Loupa, c'est vrai? Tu es membre de la secte...
Je n'en ai pas honte.
C'est pas une secte, d'ailleurs.
Merci, Armel.
À propos de l'irrésistible ascension d'Arturo Huy, Florian Fauvernier de Dampierre en Yvelines nous dit que s'il n'y a pas plus de raffinement tant dans le geste que dans le verbe du personnage interprété par Toretton, c'est sans doute parce que l'époque a évolué. Là où hier un personnage public se devait de parler et porter beau, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a ni classe ni verbe peut prétendre porter la haine dans les urnes. Je vous remercie pour votre émission qui donne votre avis et notre permission de donner le nôtre. Philippe Chavernac, lui, à propos de la pièce de Botho Strauss au Théâtre National de la Colline, Le temps et la chambre, ne partage pas votre point de vue. Quelle pièce intéressante est servie par d'excellents acteurs. C'est étrange parfois, mais le théâtre n'a-t-il pas aussi pour fonction de nous déstabiliser?
Mais on en avait dit plutôt du bien.
Absolument.
Si je me souviens bien.
C'était, non, pas Fabienne.
Oui, mais avec Jacques. Des réserves. Mais...
Et ce même auditeur, d'ailleurs, a un coup de cœur, mais ça je ne l'ai pas vu, pour Augustin passe aux aveux, au déchargeur. Joué d'après les confessions de Saint-Augustin, ça vous dit quelque chose? Par Dominique Touzet. Et enfin, à propos des deux pièces de Bakri Jaoui à la Porte Saint-Martin, il y a toute la famille Restelli de Reims qui nous écrit « Vous avez tort de faire la fine bouche. Voir et revoir sur scène un air de famille et cuisine et dépendance est un pur bonheur que nous avons partagé toutes générations confondues. Rien de vieillot dans ces deux pièces toujours d'actualité. » Alors que Véronique Salomon de Gennevilliers nous dit « Merci à certains d'entre vous d'avoir eu la lucidité de nous rappeler que cuisine et dépendance, malgré de bons interprètes, a pris un sacré coup de vieux. Je pensais rire, j'en suis sorti déprimé. » À mon avis, c'est un peu excessif. Cela dit, depuis ce masque, moi j'ai vu un air de famille que j'ai trouvé excellent, bien meilleur que Cuisine et dépendance avec une Catherine Yégel, assez époustouflante. On commence avec précisément Scène de la vie conjugale de Bergman. Je vous rappelle la série télé devenue un film en 74, chronique sur une période de 20 ans de la vie d'un couple marié depuis 10 ans. 6 chapitres scandés par les disputes, les joutes, les pugilats, les réconciliations, d'ailleurs toujours provisoires, et en long plan séquence, des légendaires Liv Ullmann et Harlan Josephson, un film qui, après sa sortie, aurait provoqué une vague sans précédent de divorce en Suède, je ne sais pas si c'est vrai, et dont d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 90, Nicole Garcia et André Dusselier avaient joué une première adaptation théâtrale, c'était à la Madeleine. Là, c'est sur la petite scène du théâtre de l'œuvre, enfin petite non, elle est très large, mais la profondeur est réduite, et c'est jusqu'au 30 avril avec Laetitia Casta, qui est Marianne, et Raphaël Personnaz, qui est Joanne, une mise en scène signée d'ailleurs par un cinéaste, qui est sa fille Nebou, à qui on doit L'autre Dumas, et Dans les forêts de Sibérie, d'ailleurs je signalerai aussi un livre qui vient de paraître sur ce même théâtre de l'œuvre. Scène de la vie conjugale, qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne ?
Bien, moi, j'ai été plutôt favorablement impressionnée par le spectacle. D'abord, j'ai eu peur, comme pour les Bakri Jaoui, que ça soit un petit peu démodé. Ces crises conjugales des années 70, évidemment, non. D'autant que le metteur en scène, Safi Nebou, a pris le parti de les désincarner presque dans un décor très abstrait, avec un jeu très épuré des comédiens qui sont comme absents parfois de leur rôle, et je trouve que ça donne de l'efficacité, moi, au texte, parce que évidemment c'est pas qu'il y a peur de Virginia Woolf, donc il y a pas d'excès, il y a pas de pathos facile, d'émotion, de coup de gueule, mais on rentre ainsi bien mieux, je trouve, dans ces problèmes de ce jeune couple qu'on voit vieillir, avec des problèmes de sexualité abordés comme rarement. Moi, je trouve que Laetitia Casta, que je n'ai pas toujours trouvée flambante au théâtre, là, elle a une profondeur, évidemment, la sensualité, la beauté qu'il faut, mais elle donne une grande profondeur.
Moi, je l'avais trouvée bien dans Ondine.
Oh, oui, mais dans la pièce de Florian Zeller, qu'est-ce qu'elle était mauvaise.
Et dans Ondine, encore une fois, elle était...
Là, c'est Raphaël Personnaz qui est peut-être un peu faible, un peu falot.
Oh, je les trouve bien tous les deux.
Mais elle, je la trouve vraiment éblouissante. Et ce qui m'a troublée, juste, c'est la solitude, le degré de solitude profonde qu'ils arrivent à donner à ce couple.
Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est ce couple qui apparemment a l'air très uni au début, très heureux, et surtout, c'est quelque chose de très masculin. D'ailleurs, au fond, le bonheur est souvent ennuyeux. Et au bout d'un moment, alors que tout a l'air
c'est
de bien
masculin,
aller,
ça
le type, oui, je crois que la peur du bonheur, c'est quelque chose de fondamentalement masculin.
Et c'est étrange. Et pourquoi ce serait
parce que je crois que l'homme est un petit garçon, contrairement à la femme qui devient vraiment un personnage adulte. Et comme les petits garçons, il se lasse rapidement de ses jouets, même s'ils sont très beaux. Il y a un moment où il vient à les casser. Et c'est au fond ce qu'on voit dans cette pièce. On voit un type qui casse un couple qui marchait bien. Et d'ailleurs, après, il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans.
Les deux cassent, hein. Il n'y a pas que lui qui casse.
C'est
hein.
lui qui commence. En tout cas, s'il n'avait pas commencé...
C'est lui qui commence, on se croirait dans une cour.
S'il n'avait pas commencé, elle serait probablement restée avec lui jusqu'à la fin de leur jour. Enfin, non, je crois que c'est typiquement masculin. C'est la moque dont parle Stéphane Zweig. C'est cette espèce de fureur, de destruction qui s'empare des hommes. Et je crois que ça, c'est effectivement typiquement masculin. Enfin, quoi qu'il en soit, le film de Bergman est très concentré. Et ce que j'admire, c'est que Jacques Fieschi et Safi Nebou sont des gens qui viennent du cinéma, et je trouve que déjà dans leur adaptation et puis dans la mise en scène, vous l'avez dit, il y a une théâtralisation très forte du film. À aucun moment, je ne repensais au film à aucun moment.
J'avais devant moi,
il l'a conçu d'abord comme un film
comme un feuilleton,
mais il l'a transformé ensuite. Excusez-moi.
Non, c'est une série télé qui est devenue un film.
Oui, mais il voulait d'abord faire un film, et il se trouve qu'il ne trouvait pas preneur. Pourtant, c'était après
que... Dans les faits, il a réalisé.
Donc, il a changé son fusil d'épaule, et il en a fait un feuilleton. Et après seulement, il est revenu au cinéma. On a un objet de théâtre devant nous, et c'est formidable, vraiment très émouvant.
J'ai dû me tromper de salle, parce que c'est pas ça du tout que j'ai vu, moi.
Ah bon ?
Mais pas du tout.
C'est-à-dire ?
Mais pas du tout. Alors je me demande, ça devait être déjà Jacques Fieschi du temps de Nicole Garcia, parce que il travaille toujours avec elle, oui. Et donc là, ils ont dû reprendre vaguement là.
Vous êtes trompée de salle, dites-nous tout.
Eh bien, parce que moi, je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait très froid, il y avait de la glace derrière le mur au fond, des arbres gelés, des oiseaux morts pour jamais accrochés à des branches, un autre qui volait. Et puis sur le plateau, il y avait comme des cercueils en bois. Et puis on entendait deux acteurs qui répétaient, ils savaient pas qu'on était là. Et alors ils faisaient une italienne avec une application très touchante. Alors, je dois dire, au début, il y a un tout petit peu de cinéma. Il y a quoi, 3-4 minutes.
Beaucoup moins qu'au français.
Non, non, voilà, oui, non, mais c'est pour ça. Mais c'est très intéressant.
Oui.
Laissez-moi parler.
Ah, mais oui.
Au lieu de faire l'émission tous les deux au fond, là.
Tous les deux.
Bah ouais. Mais j'ai pas du tout vu la même chose que vous. Donc, au début, c'est intéressant parce qu'on les voit de près. Ils sont justes, ils se présentent. C'est avant les 6 séquences bien respectées de Bergman. Mais je ne sais pas ce qui manque dans cette adaptation, parce que quand même, le film de Bergman, il faisait 2h30 ou 2h50. Là, ça fait 1h30.
Mais il n'y a que deux personnages, là.
Il y a quelque chose.
Dans le film de Bergman, il y en a plus.
N'empêche, même dans la partition des deux personnages. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'une froideur extrême. Alors que je suis une admiratrice profonde de Laetitia Casta depuis ses tout débuts et depuis avant même qu'elle ne commence à faire du théâtre. J'aime beaucoup Raphaël Personnaz. Ils auraient pu être les personnages, mais ils sont beaucoup trop dans une espèce de neutralité glacée.
Mais le film n'était pas brûlant non plus.
Ah oui, mais quand même.
Au contraire,
ça
le rend
plus présent. Il se passait quelque chose. Oh non.
Leur
Alors,
drame.
Je voudrais pas faire partie d'une secte, mais par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Ivo Vonov, qui a mis en scène de la vie conjugale aussi, qu'on avait vu à Créteil. Et c'était brûlant, et c'était violent, et c'était... Là, c'est d'une sagesse. Non, j'ai dû me tromper de salle.
Gilles.
Ben, moi, je suis content d'être venu pour écouter les pensées de Jacques Nerson sur la vie. Donc, on apprend donc que les hommes sont des petits garçons, les femmes des grandes filles.
Avec des fouets.
Et peut-être que
non, je n'ai pas parlé de ça. Vous avez de drôles.
J'admire que Jacques Nerson affronte Bergman avec sa propre pensée. C'est magistral. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel de la pièce et d'un point de vue sur ce spectacle.
Maintenant, il va
j'avoue aussi avoir été un peu déçu par ce spectacle. Alors, c'est vrai qu'il est fait avec beaucoup de soin.
C'est très
joli,
appliqué,
c'est élégant.
On n'est pas là pour être appliqué.
C'est lent, c'est travaillé, c'est détaché, distancié. Mais c'est vrai que c'est du pastel là où on aurait besoin de couleurs fauves, de l'acrylique, quoi. Ça manque de flamme, quoi. Alors, Laetitia Casta, elle est quand même très très bien. Je trouve qu'elle est très très bien, mais personnage a du mal à exister. Je trouve un peu fade. Donc le spectacle est joli. Voilà, c'est du joli travail. Là où il faudrait quand même de l'incendie.
Pourquoi penser que la crise se fait forcément avec des cris, avec de l'écriture?
Bien sûr que non, mais avec
à peine,
avec des corps. On sent bien que les scènes un peu sensuelles sont programmées de temps en temps, une fois toutes les demi-heures, on a le droit à se toucher, mais pas autrement. Enfin, c'est quand même très très sage.
Franchement, c'est ennuyeux surtout.
Ah non, pas du tout.
Moi aussi, c'est d'un ennui mortel.
Non, c'est sensible, au contraire.
Scène de la vie conjugale, la preuve. C'est au théâtre de l'œuvre, je le disais, il y a un livre qui paraît, qui est un beau livre hein, sur le théâtre, qui est conçu par son ancien directeur entre 2012 et 2016, qui était Frédéric Franck, et qui paraît aux éditions La Voix Lactée. Après les damnés, la comédie française s'attaque donc au sens propre à un autre film culte, c'est La Règle du jeu de Jean Renoir, qui date de 1939, et que la brésilienne, je l'avoue, je ne la connaissais pas, Christiane Jataï met en scène jusqu'au 15 juin dans la salle Richelieu, un film sur la décomposition avant la Seconde Guerre mondiale de la bourgeoisie et de l'aristocratie française, pour lequel Renoir disait, ça c'est vrai, s'être inspiré de Beaumarchais, de Musset, de Marivaux. Alors en lieu et place du château du film, Christiane Jataï a choisi donc d'utiliser le bâtiment historique de la Comédie française. Quel film en ouverture pendant une demi-heure, en actualisant, le mot d'ailleurs est assez à la mode, le sujet du film. C'est ainsi que Christine, l'Autrichienne, est désormais d'origine arabe, c'est Julian Brahim, que l'aviateur devient navigateur, et bien sûr sauveteur de migrants en Méditerranée, c'est Laurent Lafitte, que le garde-chasse alsacien est devenu africain, c'est Bakary Sangaré, etc., etc. Distribution, on retrouve Jérémy Lopez, Éric Genovese, Elsa Le Poivre, Dominique Blanc, j'en oublie, Serge Bagdasarian, bien sûr. J'ai noté aussi la présence fugace du patron du français, Éric Ruff, métamorphosé ici en chauffeur de maître, c'est au tout début du film. Bref, après ce film, on est sur la scène pour assister à une manière de cabaret, où Serge Bagdasarian joue la... la cage aux folles un peu, mais en...
Oui, un petit peu, puis c'est pas un personnage du tout, lui, il est rajouté.
Où les lapins et les ours dansent sur formidable d'Aznavour, où il est ordonné, je dis bien ordonné aux spectateurs de chanter parole.
Alors, en agitant les bras.
Je précise qu'à côté de moi, Gilles Costaz a refusé de reprendre Caramel, Bonbon et Chocolat et de faire précisément ce que les gestes que Armel, les gestes importants qui
a fait la ministre de la Culture,
elle l'a fait.
Elle est plus gentille que nous.
Et pour finir, retour au cinéma avec un quart d'heure de film à peu près, 10 minutes, et l'épilogue sur la place Colette du meurtre de Robert, alias Laurent Lafitte. C'est vrai que c'est assez désarmant, ce spectacle à la Comédie-Française, Armelita.
Oh là là. Alors, pensez que j'ai été un petit peu sévère avec les charmants Laetitia Casta et Raphaël Personnaz. C'est pas bien que je parle de la règle du jeu juste après, parce que la règle du jeu, moi j'avais l'impression qu'on m'arrachait la peau pendant le spectacle. Parce que...
Oh, c'est peut-être pas juste
là. On n'est pas forcément dévot de Jean Renoir, mais moi, je sais pas, c'est un artiste que j'ai toujours admiré. La règle du jeu, pour moi, c'est un des plus beaux films du XXe siècle. Et de voir l'arrogance candide, la bêtise, pour tout dire, de Madame Christiane Jatahi, ça m'a fait mal. Ça m'a blessée. Alors, le lendemain, j'étais en colère. Maintenant, je suis même plus en colère. Parce que je trouve que, au fond, ce qui mériterait, c'est Jean du Français qui sont si contents de se faire peur et qui accouchent d'un spectacle tellement médiocre, tellement déstructuré, tellement moche, qui raconte rien. Jérôme Garcin vient de vous expliquer les traductions quand on fait d'un aviateur qui a battu le record de traversée de l'Atlantique, un marin qui entre le Maroc et la France va sauver des migrants et qu'on fait de Souliane Brahim, qu'on la renvoie à son origine marocaine. D'ailleurs, elle est peut-être berbère, c'est plein de berbères, le Maroc. Il y a autant de berbères que d'arabes. Ça me déplaît, mais c'est tellement bête. Dans le petit livret qu'on nous remet, on parle par exemple du manoir. Nous sommes dans un manoir parisien. Ouais. Moi, je connais quelques restaurants qui s'appellent manoir, mais des manoirs dans Paris, j'en connais pas. Non, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas bon. Les comédiens sont pas bons. Les comédiens qui sont admirables ne sont pas bons.
Armel.
Non, mais Madame Pascot, alors, elle fait vraiment partie d'une secte, là, pour le coup. Elle aime Christiane Jatahi. Christiane Jatahi, elle a fait un spectacle admirable. Elle a fait un spectacle admirable qui était une adaptation de Mademoiselle Julie.
Ça n'est pas que j'ai aimé, c'est que j'ai jubilé à ce spectacle.
Quoi ?
Mais bien sûr. C'est un spectacle qui remet plein de choses en question, qui ouvre des pistes.
Fabienne, t'es intelligente. Tu peux pas penser un truc pareil.
Mais Armel, ne sois pas terroriste.
Non.
Je pense que je veux, si tu le veux bien.
Ah, juste ma question.
Sois sincère. Au masque et la plume, faut être sincère. Faut pas raconter des histoires.
Mais je suis sincère.
T'es une fille qui a une histoire avec le théâtre. Tu ne peux pas aimer ce qu'on a vu.
Mais bien
c'est
sûr
pas
que
vrai.
C'est.
T'as fait pareil au 104 alors que c'était nullissime ce qu'elle a fait. Nullissime.
Armel, s'il te plaît, tu gardes tes opinions pour toi.
Non,
et
non,
j'ai la liberté d'avoir une mienne.
On est là pour s'engueuler.
Mais pas
tu
du tout.
Tu le sais pas, nous on est là pour s'engueuler.
Mais pas
c'est
du
pas
tout.
Possible, c'est honteux. Alors, faut
attends,
être sincère.
On ne s'engueule
Armel,
pas pour rien.
Je voudrais
rien.
Que Fabienne s'exprime quand même, parce que même si moi je suis étonné effectivement parce qu'elle vient de dire, je vois qu'elle explique pourquoi
d'abord,
elle a jubilé.
D'abord, je ne me suis pas ennuyée une seconde. J'ai été surprise de bout en bout, avec l'esprit en éveil de bout en bout. La curiosité, voir ce qu'on allait faire, découvrir des acteurs qui jouent autrement, dans un lieu que Christiane Jatahi filme en permanence, donc c'est vrai qu'il y a une demi-heure.
Tout est déjà filmé, il n'y a rien de dangereux là-dedans, à part deux baisers dans les coulisses.
Mais Armel, peu importe, ce qui compte, c'est
le
les pistes qu'elle ouvre. C'est la, par exemple, on voit un acteur filmé, et on le voit après sur scène. Elle casse tous les codes.
Ce qui était
on
le
voit
cas
enfin, Fabienne, ça fait 40 ans que tu vas au théâtre, t'as vu
non,
du
mais
castor.
Armel, mais peu importe mon expérience à moi, j'essaye de me mettre à la place du spectateur. Fabienne Pascot, elle
le
n'est pas importante. La critique
va.
N'est pas importante.
Ah bon, bah
ce qui
alors,
compte, c'est l'émotion que peut éprouver le spectateur. Et par rapport à cette adaptation de Jean Renoir, qui écrit le film en 1939, dans une société déliquescente, qu'elle essaye de nous l'adapter aujourd'hui et de nous montrer à la place de la France de 39 la France de 2017, je trouve ça très intéressant. Le film de Renoir est nourri, c'est Renoir lui-même qui le dit, de Beaumarchais, de Marivaux, de Musset. Donc elle rend donc à ce film la partie théâtrale qui nourrit ce film. Et ce faisant, elle essaye de l'adapter, elle essaye de nous ouvrir des pistes, elle essaye de montrer ce que le théâtre... Eh bien, où est le théâtre? Où est la représentation? Qu'est-ce que ça veut dire montrer? Qu'est-ce que ça veut dire faire du cinéma? Qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre? Qu'est-ce que ça veut dire des comédiens nuls? Qu'est-ce que ça veut dire que des comédiens qui chantent, qui dansent, qui sont confrontés à du vide? Parce que c'est vrai qu'il y a du vide de temps en temps. Eh bien oui, le grand néant. Eh bien, écoutez, le spectacle, rien que pour ça, rien que parce qu'il dérange, moi je suis désolée, mais être au théâtre...
Vous êtes dérangée.
J'aime être dérangée, oui. Oui, parce que pour moi, une des fonctions fondamentales du théâtre, c'est de nous déranger. C'est de nous faire penser autrement.
Le bon théâtre, Fabienne,
mais qu'est-ce qui vous dérange là-dedans?
Eh bien, justement, la notion de la représentation, là, je trouve qu'elle la réinvente, Christiane Jataï.
Moi, je trouve qu'elle arrive... Alors, Jacques...
On dirait un travail d'amateur.
Moi, il me semble qu'il faut rendre hommage à cette...
Et quand bien même le travail d'amateur peut nous apprendre des tas de choses, il n'est pas acheté à la poubelle.
Pas la comédie française.
Je crois qu'il faut rendre hommage à cette metteur en scène, que effectivement, je ne connaissais pas, mais qui a déjà fait plusieurs expériences de ce genre, rapprochement théâtre-cinéma, c'est qu'elle arrive à prendre donc ce film qui est considéré comme... Moi, ce n'est pas mon préféré de Renoir, mais enfin, il est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Il est vénéré par tous les cinéphiles. Elle arrive à faire avec du mauvais cinéma, du mauvais théâtre, et même du mauvais musical, car j'adore Serge Bagdasarian, mais là j'avais un peu honte pour lui. Ouais. Il est entraîné vers, à mon avis, ses pires défauts. Ouais. C'est assez gênant.
Et quant aux acteurs, du Figaro, qu'il était admirable.
Quant aux acteurs,
s'il vous plaît, je trouve mauvais Bagdasarian.
Quant aux acteurs dont vous dites,
s'il vous plaît,
Bagdasarian,
s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
En tout cas, Fabienne dit que les acteurs.
Tu as lu quelqu'un d'autre. Fabienne, Brigitte Salino.
Fabienne a dit que les acteurs. Fabienne a dit que les acteurs jouaient autrement. Elle a raison, parce qu'ils jouent mal. Alors que ce sont très grands acteurs, et que là, dans le film notamment, ils sont vraiment épouvantablement mauvais, ce qui est très étrange, parce qu'ils sont parmi les plus grands acteurs de France.
Que Laura Lafitte se demandait ce qu'ils faisaient là.
Ah, mais tous, mais pratiquement tous.
Eh bien, c'est bien.
Et puis alors, d'autre part, le fait que la vidéo soit l'auxiliaire du théâtre, maintenant on le voit souvent, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Mais là, quand la vidéo se substitue au théâtre, et quand un metteur en scène fait un film de 26 minutes en début d'un spectacle de théâtre, ça veut dire qu'il ne sait pas comment raconter cette histoire théâtralement. Et là, je pense que c'est un aveu d'impuissance. C'est un spectacle lamentable.
Mais c'est une autre forme.
Non, oui, non,
Gilles Costaz.
Tout accepter, Fabienne.
Moi, comme Jérôme vous l'a dit, j'étais sous l'œil de Jérôme Garcin, et je ne pouvais pas cacher mes sentiments, qui ont évolué au fil de la soirée.
C'est vrai
que j'ai été gelé pendant trois quarts d'heure. C'était insupportable, ce premier film.
C'est-à-dire
le film, et puis après, effectivement, cette espèce d'intermède, d'entraque.
Personne n'a parlé du drone.
On n'a pas parlé du drone, qui était effectivement une grande première
et
au théâtre.
Petit lapin.
Un drone qui monte dans les cintres, qui filme les acteurs. Oui, c'est assez amusant. Mais voilà, l'objet est amusant en tant que récréation. C'est-à-dire qu'on voit les acteurs du français à la récré, quoi. Ils s'amusent. On a fait ça pour qu'ils se marrent, pour qu'ils disent, voilà, je sais faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Moi j'ai fini par les trouver amusants, par rire, mais il n'y a rien de la règle du jeu, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez honteux de transformer la règle du jeu de cette façon-là, c'est insupportable.
Mais on s'en fout de la règle du jeu.
Ah ben voilà un aveu de...
Jataï a un certain savoir-faire, c'est vrai qu'elle organise bien la façon dont les gens sont sur la scène, la façon dont elle projette les images.
On n'a jamais vu quelque chose d'aussi mauvais.
Non, c'est
bien fait. Arrête, il n'y a aucune image projetée, il y a deux films interminables. Et deux petits baisers filmés dans les coulisses en direct.
Je crois que l'image du drone est une bonne image parce que cet objet, c'est comme un drone.
C'est un truc fabriqué,
qui est fait pour s'amuser.
S'il vous plaît.
Et c'est pas sérieux.
Je sens qu'on va pas aller au bout de l'émission là.
C'est pas sérieux, c'est le contraire, c'est du plomb.
Non. On va dire qu'on se calme là.
Ah non, on se calmera pas.
Mais si.
Bah non, parce qu'avec la suite, on se calmera pas.
C'est vrai. Là, c'est la règle du jeu. Alors, à vous de faire votre choix, si vous êtes du camp Pascoe ou du camp Elio. Et c'est à la Comédie-Française et c'est une mise en scène de Christiane Jataï. On va d'ailleurs prendre les pièces un peu plus rapidement. La tragédie du roi Christophe, c'est la pièce la plus emblématique du poète et politique martiniquais Aimé Césaire, disparu en 2008, une pièce créée en 1964. Que Christian Schiaretti a monté au TNP de Villeurbanne et qui est actuellement en tournée, notamment au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 12 mars. Et puis après, ça va aller partout. Pièce qui exalte la lutte du peuple haïtien pour la liberté et qui commence juste après la Révolution et l'indépendance. Un homme, Henri Christophe, l'histoire est tout à fait vraie, hein, ancien esclave et général de Toussaint Louverture, est nommé président de la République par le Sénat, mais il refuse le titre et fonde un royaume dans le nord de l'île dont il devient le roi en 1811. Le peuple va se révolter et il va se suicider en 1820. Il est d'ailleurs enterré debout, son corps tourné vers le sud. Il y a du tragique mais aussi du burlesque dans le destin tout à fait, je le disais, authentique du roi Christophe. Et cet épisode de la décolonisation qui s'ouvre d'ailleurs par un combat de coq et que Christian Schiaretti met en scène avec une troupe en grande partie composée de Noirs d'origine burkinabé. Gilles, qu'en avez-vous pensé ?
Oh bah c'est une très très grande chose. D'abord, c'est une pièce immense. C'est une
très grande pièce.
Une pièce à la langue qui est comme l'océan. Quoi. C'est fait de vagues magnifiques. La mise en scène de Christian Schiaretti ne cherche pas à être surprenante. C'est une mise en scène très simple. Justement, je parlais de vagues. C'est un peu sans arrêt. C'est les vagues qui, des acteurs qui montent comme sur une plage et qui redescendent. C'est tout dans le flux et le reflux. Et alors, parfois, il y a des problèmes avec certains acteurs qui articulent pas très bien le français. N'empêche que l'acteur principal, qui joue le roi Christophe, Marc Guilca, est absolument prodigieux. En tout cas, c'est un tel bonheur de langage. Alors, on n'est plus habitué à ces pièces aussi riches, quoi. Les pièces des années 50, 60, c'est des pièces de poètes, de très grands poètes. Là, il y a un langage
c'est
colossal. On a trois heures de beauté, de langage. C'est énorme.
Et de politique.
Et d'histoire et de politique. Alors, Schiaretti a introduit, en plus, dans le texte, parfois les didascali pour que ça devienne plus clair, parce que l'histoire, l'histoire nous est pas toujours claire, connue. N'empêche que ça reste un moment de théâtre magnifique.
Jacques.
Je suis assez de l'avis de Gilles. J'étais évidemment ébloui par la pièce qu'on a déjà vue, notamment montée à la Comédie Française il y a quelques années. Et c'était déjà magnifique. Bon, j'ai pas assisté à la création par Jean-Marie Serrault. Je crois que c'était en 65.
64, oui.
À peine la pièce était écrite, oui. Il l'a montée. C'était incroyable.
Jean-Marie Serrault, c'était, je crois, vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais enfin bon, là, c'est un très beau spectacle. Je suis, malgré tout et malgré mon admiration pour la pièce et pour la mise en scène, mais très gêné par ce dont Gilles a parlé, c'est-à-dire la diction des comédiens, spécialement les comédiens burkinabés. Ce que je ne comprends pas, c'est que Schiaretti a déjà travaillé avec cette troupe pour une saison au Congo, il y a quelques années, et j'avais rencontré aucun problème de compréhension. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais on perd énormément de textes. C'est très, très gênant, parce qu'une langue tellement belle qu'on n'a pas le droit de ne pas nous la restituer parfaitement.
Fabienne.
Moi, j'ai tout très, très bien compris. Et puis, même s'il y a parfois quelques difficultés de prononciation, là, faut dire que la pièce, elle est quand même lyrique, flamboyante, tellurique, avec une puissance verbale énorme. Il y a quand même des points d'obscurité terribles. Oui, mais enfin, ça fait partie de cette langue un peu magique qui flirte avec le chamanisme tout en étant historique. Enfin, et l'avantage d'avoir une troupe noire, complètement noire, parce que ça, c'est quand même, quand on l'avait monté à la Comédie Française, c'était le pari, c'était d'Antoine Vitesse, qui est mort avant qu'elle soit jouée, c'était de la faire jouer par des blancs pour montrer à quel point c'était
la pièce. Il y a beaucoup d'acteurs noirs.
Ben là,
tout
moi,
à fait francophones.
Je suis contente de voir que des noirs sur le plateau.
Ben oui, mais il y a suffisamment d'acteurs noirs tout à fait francophones et français pour que ce soit dommage de faire jouer des gens qui, malheureusement, articulent tellement mal qu'on perd beaucoup de textes.
C'est pas l'important,
si,
Jacques.
C'est
pas l'important, parce que vous n'avez pas compris, mais moi j'ai tout compris.
C'est formidable.
Moi, ce que je...
vous avez vous-même admis qu'il y avait des difficultés d'articulation, mais vous comprenez
porter,
quand même au-delà.
C'est comme du Claudel. On comprend pas tout. On comprend pas tout à Shakespeare non plus, mais on se laisse porter par le.
C'est pas une raison pour mal l'articuler. Enfin, vous confondez les deux.
Mais c'est des détails. Mais... Ça, c'est des détails.
C'est de mauvaise foi. C'est terrible.
Et donc moi, j'ai trouvé que la mise en scène de Christian Scaretti était très musicale, parce qu'il y a aussi des musiciens sans arrêt sur le plateau. Elle est un peu paresseuse, c'est un peu un oratorio qu'il nous fait, plus un requiem qu'une pièce, mais c'est pas vraiment une pièce, il n'y a pas vraiment de situation, pas vraiment de dialogue non plus. C'est un long poème épique, et pour ça, il faut vraiment aller l'entendre.
C'est du théâtre épique, mais c'est une pièce.
Allez, Armel.
C'est un très très beau spectacle. Je suis comme Fabienne Pascaud, je n'ai pas eu de problème de compréhension, mais peut-être que dans ce grand espace du TNP de Villeurbanne, peut-être qu'il y a des endroits où on entend moins bien, parce que c'est vrai qu'il parle très vite et que je comprends très bien qu'on puisse par moment perdre...
Je n'étais pas le seul, j'ai vérifié.
Ouais, qu'on puisse perdre du mot, du sens. Ça reste une très très grande pièce, admirable, et elle est menée quand même, parce qu'il y a cette troupe, ils sont une quarantaine sur le plateau, plus les musiciens. Et c'est mené quand même par cet acteur absolument exceptionnel, qui est néo-zaïre, mais qui est de nationalité belge, Marc Zinga, qui est extraordinaire parce qu'il fait passer quand même la tragédie du roi Christophe, il fait passer la folie du roi Christophe, il fait passer la méchanceté, la paranoïa et le basculement du roi Christophe dans la tyrannie. Il fait penser un peu à Mao Tse-tung, il est terrible. Et il reste en même temps, la patte humaine nous est renvoyée. Et ça, c'est un très très grand travail.
La tragédie du roi Christophe, ça se joue de Césaire, ça se joue au Théâtre des Gémeaux et c'est en tournée. Une des pièces les plus connues de Duras, c'est La Monte anglaise, mise en scène au Lucernaire jusqu'au 9 avril, avec... Sobriété, par Thierry Harcourt, qui en parle comme d'un thriller de l'esprit, une pièce créée par Claude Régis, cette fois en 68 à Chaillot, qui était la deuxième mouture des viaducs de la Seine-et-Oise, inspirée d'un fait divers datant de 1949, le meurtre par Claire Lanne de sa cousine, sourde et muette, qui vivait chez elle et dont elle a découpé le corps et jeté les morceaux, tout ça est charmant, dans des trains de marchandises qui passait sous un viaduc, crime que la meurtrière d'ailleurs reconnaît, sans pour autant expliquer pourquoi elle l'a commis. Ma route, dit-elle, est allée droit vers ce crime. Au Lucernaire, c'est Judith Magg qui reprend le rôle de Claire Lanne, que jouait Madeleine Renaud à la création. Il y a eu aussi Suzanne Flon, il y a eu aussi Ludmila Michael, avec Jean-Claude Leguet dans le rôle du flic interrogateur, c'était Lonsdale en 68. Et Jacques Frantz, dans celui du mari, c'était Claude Dauphin, là encore à la création. C'est La Monte anglaise au Lucernaire. Qu'en pensez-vous, Fabienne ?
Pour moi, ce n'est pas du tout La Monte anglaise, personnellement, parce que Judith Magre, qui est
C'est le texte, hein ?
Oui, c'est le texte. Mais
je le précise pour ceux
Judith Magre,
qui ne pourraient pas comprendre votre...
qui est une magnifique actrice, pour moi, n'est absolument pas le personnage de Claire Lanne, qui est quelqu'un de très mystérieux, de très... Elle parle, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense. Marguerite Duras adorait les monstres, était fascinée par les monstres. Alors, c'en est un, parce que sous cette apparence complètement banale, ordinaire et quotidienne, elle a tué, coupé en morceaux cette pauvre handicapée qui faisait le ménage chez elle. Et tout
ce qu'il faut éviter de faire. Hein, parce que...
Oui. Où a-t-elle mis la tête ? Voilà, c'est l'intrigue. Où il reste la tête.
Elle l'a peut-être perdue.
Tête. Or, Judith Magre, au lieu de montrer ce personnage un peu vide, un peu absente, qui fascine à cause de son vide et de son absence même, elle est d'une telle sensualité à 90 ans. Elle est encore tellement bavarde, tellement coquette, tellement sensuelle, tellement drôle... Alors certes, elle est électrique dans la mise en scène, mais pour moi, elle n'est pas du tout le personnage. Et en plus, j'ai trouvé la mise en scène totalement bâclée, avec Leguet et Franz.
Elle est modeste, disons.
Elle est vraiment modeste, mais alors là, c'est pas un travail en finesse de l'interrogateur et du mari. Hein, voilà.
Armel.
Moi, au contraire, ça m'a intéressé que l'interrogateur et le mari ne soient pas comme d'habitude, où ils sont dans une espèce de rétention pintérienne. Là, c'est viril, ils se frapperaient presque. Enfin, on sent qu'ils sont énervés l'un et l'autre. Et en même temps, ils sont à la recherche de la même chose. C'est qu'est-ce que c'est que la folie de cette femme? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et quant à Judith Magre, moi, je comprends qu'on puisse être cette Claire Lannes-là. Alors, effectivement, c'est Judith Magre qu'on voit avant de voir Claire Lannes. Mais pourquoi pas? C'est comme une interprétation un petit peu musicale. Et puis Judith, elle est quand même, elle peut se faire inquiétante au fond, avec ses grands yeux et son visage si structuré, sa vitalité.
Je trouve pas qu'elle puisse faire peur. Elle a plein de vertus, ouais, et de qualités. Ah. Mais
je suis un peu quand même.
Ouais, moi je me suis pas rendu compte de ça.
Jacques.
Moi, je suis émerveillé par sa vitalité. Le personnage de Claire Lannes, personne ne peut dire qui elle est. Ouais. C'est un personnage
même
très fort.
Même Duras, hein, d'ailleurs.
Effectivement. Il y a plusieurs Claire Lannes dans la maison de mon père, vraiment, je crois que...
Ah, j'espère que non.
je crois que...
Oui, j'espère que non, moi aussi.
Il peut y avoir celle-ci, il peut y en avoir une autre. Personne ne sait vraiment comment elle est, à quoi elle ressemble. Et j'ai trouvé Judith Magre absolument remarquable. Je trouve qu'elle est d'une vitalité exceptionnelle. Elle donne vie aux mots comme personne. Et puis par ailleurs, alors j'étais un petit peu gêné par Jean-Claude Le Guay, dont j'ai trouvé qu'il jouait un peu l'inspecteur, un peu façon série télévisée. Ouais. J'ai vraiment effectivement pas trouvé son jeu très subtil. En revanche, Jacques Fantz, qui est un acteur très sous-estimé, très malheureusement cantonné à son travail de doubleur, c'est un des plus grands acteurs de doublage français, j'ai trouvé qu'il était d'une présence étonnante. Il n'est pas seulement une voix, il a aussi un corps, et un corps incroyable. Tellement énorme. Il est pas gros, il est épais, il envahit tout le plateau et on se dit le théâtre est trop petit pour un acteur comme ça. Je le trouve magnifique, très très émouvant.
Gilles.
Ben, je suis de l'avis de Jacques Lerson. Jacques Fantz est extraordinaire dans ce spectacle. On le voit pas tout le temps parce que le rôle du mari c'est la première partie. Mais cette présence, c'est absolument extraordinaire de puissance. Renfermé de douleur, c'est admirable. Alors revenons à Judith Magre. Je comprends pas du tout la réaction de Fabienne, pardon, parce que elle apporte vraiment autre chose au personnage. C'est vrai qu'on avait vu presque tout le temps, sauf quand c'était Lumière Michel, des femmes très âgées, très fatiguées. Et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est l'actrice la plus âgée qui joue ce rôle, puisqu'elle a 90 ans, qui est la plus jeune. Elle est d'une vitalité extraordinaire, d'une passion. Et ce qu'elle joue, c'est la passion.
Mais elle n'en a pas, Claire Lannes, de passion.
Mais si, au contraire, elle a aimé l'homme qui n'est pas son mari. Elle en parle tout le temps, la pièce en parle tout le temps. Elle est tout le temps dans cette passion. Et elle est aussi dans la passion d'elle-même, bien entendu. Et la passion de la haine aussi, la passion de faire souffrir sa cousine. Tout ça, c'est des passions très... Et d'ailleurs, Duras, c'est toujours la passion, que ce soit une passion amoureuse ou une passion négative. Donc je trouve que Judith Magre apporte ça de façon absolument... intéressante et nouvelle, dans une mise en scène qui a l'avantage quand même de donner à la fois le vertige, parce que on est dans le vertige du cerveau, quoi. Pourquoi a-t-elle tué? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tête étrange? Et aussi dans une des choses très très quotidiennes, parce que c'est aussi la représentation de Français très très moyen. Il y a tout ça et c'est tout à fait passionnant.
La Mante Anglaise, c'est Duras et c'est au Lucernaire avec Judith Magre. Exercice de rapidité pour terminer avec deux pièces de boulevard, je le disais. Bankable, une comédie au Montparnasse de Philippe Madral. Vous savez, c'est lui qui avait fait La colère du tigre. Et c'est mis en scène par Daniel Collat avec Laurent Deutsch, Jérôme Anger, Vincent Winterhalter, Manuel Gaillard, Caroline Maillard. Je ne vais pas résumer, l'affiche précise que c'est une comédie délirante sur les travers du cinéma, puisqu'il est question à la fois d'une vedette de cinéma, d'un scénariste survolté, c'est évidemment Laurent Deutsch, ou d'un producteur. Comédie délirante sur les travers du cinéma, Jacques ?
Délirant, oui, c'est délirant d'avoir monté cette pièce. Je comprends pas ce qu'il y a pu passer par la tête de Myriam de Colombie, la directrice
Laurent
du Montparnasse. Peut-être
Laurent Deutsch qui voulait la jouer.
C'est elle qui s'est entichée de la pièce et qui a vraiment produit le spectacle. Elle est à l'origine du spectacle. Or, c'est quelqu'un qui, d'habitude, a beaucoup d'exigences et qui a amené le théâtre Montparnasse pendant longtemps.
Saison, la pièce avec Berléand était
on s'occupe pas de la productrice.
Depuis quelque temps, elle a la main moins heureuse, c'est vrai. Et là, cette pièce est invraisemblable parce qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que dans les premières minutes, on nous dit, voilà, on va remplacer l'acteur, le producteur américain n'est pas content de lui, il veut le remplacer. Et au bout d'une heure et quart seulement, on lui dit qu'on va le remplacer. Et pendant une heure et quart, du remplissage, du blabla, sans arrêt, pas de situation.
De dire,
mais c'est vraiment épouvantable, de nullité, de creux. On ne rit pas un instant. Il y avait quelques personnes qui cherchaient à applaudir au changement de tableau pour entraîner la salle. On sentait que c'était vraiment des copains. Personne ne suivait. Personne n'avait envie de rigoler. Enfin, c'était une soirée, mais d'une tristesse affreuse. Et je suis vraiment triste, et pour les acteurs, qui sont pas mauvais, et encore une fois, pour la directrice de ce théâtre. Mais là, je crois vraiment que Bankable, je ne sais pas, mais par la banque Lehman Brothers, alors.
Fabienne ?
Oui, le texte de Philippe Madral, c'est une accumulation de clichés sur le monde du cinéma, les scénaristes prêts à tout, les producteurs véreux, les acteurs has-been qui rêvent d'être encore stars mais qui ne le seront jamais. Donc oui, c'est un peu triste, quoi, parce que c'est fait... Cola a essayé de donner un peu de sens à ce boulevard en créant encore un décor totalement évanescent. Il a essayé de faire un peu subventionner au théâtre public, mais rien ne fonctionne.
Armel.
Oui, non, ça fait de la peine. Ce qu'a dit Jacques, ce qu'a dit Fabienne, c'est tout à fait ça. Moi, j'étais particulièrement consternée en me disant, mais quand même, quelqu'un comme Laurent Deutsch, quelqu'un comme Vincent Winterhalter, qui est un acteur magnifique, ils travaillent quand même, ils font de la télé, ils tournent des films, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi vont-ils jouer cette pièce?
Comment texte qui paraît dans l'avant-scène théâtre.
Pour travailler, justement,
Armel. Ce qui reste un mystère aussi. Gilles.
On est déçus parce que c'est intéressant, les pièces, non pas tellement sur les acteurs, on en a beaucoup eu, mais sur les auteurs, c'est-à-dire l'auteur est auteur de théâtre et scénariste à la fois. Et c'est toujours intéressant que les auteurs parlent d'eux-mêmes, et de la part de Philippe Madral, qui est un personnage assez surprenant, parce qu'il a été scientifique, après il a écrit pour le théâtre et pour le cinéma, il a même écrit des bonnes pièces. C'est quoi, par exemple, que jouait Patrick Chenet, c'était une très bonne pièce. Comment, quand il s'agit de parler de lui-même, finalement, il en parle si peu et si mal. C'est très surprenant. Et Daniel Collat avait monté une très bonne pièce qui s'appelait Hollywood sur les scénaristes de Autant d'emporte le vent. C'était une très bonne pièce sur les scénaristes, autant de héroïques où il y avait Benesch, bon. Où il y avait Faulkner qui écrivait pour le cinéma Hollywood.
Il y a
plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et là, on passe à côté.
Donc c'est raté, c'est Bankable et c'est au théâtre Montparnasse. Allez, et on termine avec Un animal de compagnie, la nouvelle pièce de boulevard, qui n'est pas aux variétés cette fois, qui est aux nouveautés de Francis Weber, qu'on ne présente plus, hein, le dîner de cons évidemment au théâtre, cinéma Le Grand Blond, L'Emmerdeur, La Chèvre ou Le Placard. Et là, c'est une mise en scène de Francis Weber, soi-même, avec Noémie Delattre, Dinara Troukarova, Stéphane Fraisse, Philippe Vieux, et la voix de Gérard Jugnot. Elle, Christine, elle est décoratrice. Lui, Henri, est journaliste. Ils sont mariés depuis 20 ans. Lui voulait un enfant, elle préférait faire carrière, et quand elle s'est décidée, c'était trop tard. Elle a alors demandé à son mari de lui offrir un Yorkshire pour combler le manque. Et lui, il a acheté un poisson rouge, je crois que vous saurez l'essentiel. Oui, baptisé Pignon.
Oui, il fallait un pignon, oui.
Monsieur Pignon, Armel.
Et qui parle avec la voix de Gérard Jugnot.
Voilà, de Gérard Jugnot.
Mais je crois que le résumé brillant que vous venez d'en faire dit tout. C'est désarmant.
J'aurais pu parler de la prostituée caucasienne.
Oui, voilà. Alors, dans les pièces de Francis Weber, les dernières, les trois dernières, souvent l'exotisme dangereux est russe. Et là, il est plus précisément caucasien. Non, c'est...
Elle serait plutôt géorgienne, celle-ci.
Le public, je mentirais. Moi, j'étais dans une salle où le public riait de très bon cœur, mais vraiment de très bon cœur, et faisait en particulier un triomphe à Philippe Vieux, qui fait l'ami encombrant, pot de colle.
je n'arrive pas vraiment à rentrer et à m'amuser dans ce genre de pièce. Bah parce qu'il ne se passe rien, quoi, finalement. Il ne s'y passe rien.
Mais parce qu'elle est mauvaise, oui.
Je serais de mauvaise foi si je ne reconnaissais pas que le public marche.
Enfin, sur le même boulevard, un peu plus loin, moi j'étais l'autre soir, encore une fois, à un air de famille. Là, j'ai vu ce que c'est qu'un public, mais qui fait un triomphe en riant à des comédiens et à une bonne pièce.
Hein. Non, je suis d'accord, mais.
Jacques.
Écoutez, oui, Francis Weber, c'était un excellent constructeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu tellement d'esprit, qui n'a jamais été très fin, mais il savait construire des histoires très drôles.
Le dîner de con,
c'est pas tellement dans les dialogues, c'est plutôt, encore une fois, dans la construction. Et là, malheureusement, ça n'y est plus. Alors, les dialogues, il n'y en a toujours pas, et ce qui se passe dans cette pièce est totalement invraisemblable. Il n'y a pas de raison que cet homme ouvre les hostilités en offrant à cette femme qu'il prétend aimer, en lui offrant ce poisson rouge. On part dans une histoire qui est complètement inconsistante, et on se demande ce qu'on fait là, et le pire de tout, c'est que les acteurs aussi se demandent ce qu'ils font là. Le pauvre Stéphane Fraisse, moi, j'ai de la peine pour lui. C'est un acteur merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il fiche là-dedans? Est-ce qu'il a vraiment des problèmes d'impôts? Je sais pas, mais c'est très dommage de le voir s'égarer là-dedans.
Ça fait longtemps
très qu'il dommage.
A pas fait des choses très intéressantes.
Mais c'est un merveilleux acteur. Mais qu'est-ce qu'il fiche là-dedans, mon Dieu?
Gilles?
Bah, Jérôme Garcin, je ne vous pardonnerai jamais de nous avoir envoyé voir ça. Ah, mais alors, perdre une soirée comme ça, c'est terrible. Et en plus.
Mais c'est votre métier, mes enfants.
Oui, mais alors autant aller voir en banlieue une jeune compagnie qui a monté. Un jeune auteur, ça dure 3 heures, et c'est pas bien, mais c'est passionnant parce que ça promet quelque chose. Là, c'est la fin d'un auteur.
Ah ben là, ça promet.
Tragique. Et puis, en plus, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais c'est abject. C'est abject dans les sentiments, dans l'écriture, dans tout ce que ça dit des femmes. C'est vraiment, vraiment d'une.
Oh, les hommes ne sont pas très gâtés. Quand il apprend qu'il a un enfant de 5 ans,
des esprits, d'une mesquinerie sur l'humanité. Et je parle bien sûr à Jacques Nerson qui a sa pensée sur l'humanité. Là, il y a des choses quand même sur l'amour, tout là, qui sont à vomir.
Fabienne?
Oh, mes camarades ont bien parlé. Non, pour moi, c'est le degré zéro de l'écriture. Il ne se passe rien. Les gens rient, mais moi, je pense que c'est parce qu'ils ont payé leur place 60 euros, donc ils veulent amortir. Mais le théâtre.
60 euros?
60 euros, oui.
Ah oui, 60 euros.
Mais le théâtre est délicieux. Les nouveautés, c'est un des plus jolis théâtres de Paris. Hein. Mais bon, à part ça, c'est consternant d'inanité.
Voilà, c'est donc un animal de compagnie. C'est donc de Francis Weber, encore une fois, qui n'a pas été le dernier des derniers, aussi bien pour les scénarios de films que dans certaines pièces à succès. Allez, on a le temps de conseiller des pièces, des spectacles, ça peut être du cirque, ça peut être... Si vous voulez conseiller un restaurant, et vous pouvez
le manoir.
Aussi. Le manoir.
Place Colette, Paris 1er.
Allez, on va commencer avec Armel.
Alors, un très joli spectacle, mais vraiment, qui ne se joue que le lundi à 18h30 au Déchargeur.
Que le lundi ?
Oui, mais le lundi jusqu'à la fin du mois de mars. Mais je vous assure, c'est merveilleux. Ça s'appelle Madeleine, l'amour secret d'Apollinaire. C'est les lettres échangées par Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès.
On a vu ça,
non, il y a quelques années. Non, ça n'a jamais été adapté.
Il y a eu plein de spectacles sur Apollinaire, mais pas Madeleine Pagès.
Non, il y a eu les lettres à Lou, il y a eu... Ah, c'est les lettres à Madeleine Pagès, qui était donc une jeune enseignante qui travaillait à Oran, près d'Oran, et qui était venue à Noël 1915 voir sa belle-sœur, dont le mari, qui était le grand frère de Madeleine Pagès, était parti sur le front, puisqu'on est en pleine guerre de 14. Elle reprend le train en gare de Nice pour aller à Marseille prendre le Sidi Bel Abbès et retourner à Oran. Et elle est dans un compartiment toute seule et monte un grand gaillard de soldat et ça l'énerve. Elle se dit, oh là là, je vais aller m'asseoir ailleurs, je vais essayer de pas le vexer, mais bon. Et tout d'un coup, elle entend cet homme qui parle à une femme sur le quai et qui lui recommande de lire les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et du coup, elle se dit, oh là là, il est pas comme les autres, ce type. Et ce type, c'est Guillaume Apollinaire. Sur le quai, c'est Lou. Louise de Coligny, et une histoire va se lier entre eux, entre Marseille et Nice. À la fin, il prend son adresse pour lui envoyer le recueil d'alcool, parce qu'il est un peu vexé, parce qu'elle ne le connaît pas, elle ne sait pas son nom, elle n'a pas lu alcool. Et une dernière histoire, ils ne se reverront qu'une fois, à Noël 15, et puis après, bon ben...
Et c'est une lecture, Armelle ?
C'est une lecture simple.
D'accord.
Toute simple.
Donc au déchargeur...
Par Alexandrine Serre et Pierre Jacquemont.
Le lundi
à 18h30. Et je vous assure, ça dure 1h15, et on sort de là, on a son comptant de théâtre pour la semaine.
Le conseil de Fabienne.
Alors moi, c'est plutôt adressé aux spectateurs de Strasbourg, où au TNS, on redonne un spectacle que j'ai vu à la Manufacture des œillets d'Ivry, qui est « Des roses et du jasmin », un texte d'Adèle Hakim et une mise en scène d'Adèle Hakim, jouée avec le Théâtre national palestinien, et qui est une pure merveille de sensibilité, d'émotion. Adèle Hakim prend l'histoire d'une famille israélienne avec un frère et une sœur fraîchement débarqués d'Allemagne après-guerre, rescapés des camps, et raconte de 44 jusqu'à 90 le destin de cette famille qui va aimer... qui va aimer des Palestiniens, qui va être ne plus savoir quoi faire par rapport à la Palestine, comment prise entre le sionisme et l'OLP. C'est magnifiquement raconté, évidemment, ça se termine mal, mais c'est on comprend tout, on est éclairé, et ce Théâtre national palestinien, tous les acteurs sont prodigieux. Donc c'est une saga feuilletonesque écrite comme une série américaine, et en même temps, ça nous parle du monde d'aujourd'hui.
C'est des roses et du jasmin, mais ça n'est que à Strasbourg.
Oui,
c'est
à Strasbourg, au TNS, jusqu'au 8 mars. Et après, ça tourne encore. Mais jusqu'au 8 mars, c'est au Théâtre national de Strasbourg.
Mon conseil, c'est un spectacle qui est en modeste, mais qui m'a beaucoup ému, qui est en tournée. C'est La Rive dans le Noir, spectacle que Pascal Quignard avait créé au dernier festival d'Avignon. Il partage la scène avec un vrai corbeau, une vraie chouette, et la vraie formidable comédienne Marie Vial. Spectacle où il se souvient de... Il joue aussi du couperin, peu, il lit des contes et il se souvient surtout, et là ça devient bouleversant, de l'enfant qu'il a été, Pascal Quignard, c'est-à-dire à la fois anorexique, mutique, détesté par sa mère. Et il raconte sur son expérience théâtrale, qui est nouvelle pour lui, il raconte dans un livre qui vient de paraître, Performance de ténèbres chez Galilée, il raconte le bonheur qu'il prend à être en scène, il dit qu'il prend sa revanche sur ce qui déroutait tellement les premiers temps de sa vie. Et donc, c'est La Rive dans le Loir. Ça va être à Malakoff, au Théâtre 71, du 28 février au 4 mars, et à l'Olympia de Tours, du 21 au 24 mars, et encore ensuite en tournée. Pascal Quignard, La Rive dans le Loir. Jacques.
Eh bien, je veux juste rappeler quelque chose, c'est que le 16 février dernier, on a fêté les 60 ans de la Cantatrice Chauve. C'est unique au monde qu'une pièce se joue
à la
pendant
Huchette, toujours.
60 toujours à la Huchette. Elle se joue maintenant dans d'autres
et
théâtres.
Et la leçon parce que aussi, Jacques, non les
oui,
deux
et,
se
la,
jouent
la,
depuis
mais,
60
et la leçon, mais je crois que la Cantatrice Chauve a été jouée
avant. Elle a commencé d'abord.
Et donc, 60 ans,
c'est fou. Hein.
C'est absolument un phénomène incroyable. Et bon, je conseille aux spectateurs d'aller voir si jamais des cheveux ont repoussé. Ça peut être intéressant. Et puis, je voudrais juste conseiller très rapidement de lire la correspondance de Tchekhov, la correspondance générale de Tchekhov, qui est publiée chez Lafon, qui est éblouissante.
En collection bouquin.
Oui, en collection bouquin, et qui permet de voir cet esprit et cette âme se constituer sous nos yeux en lisant les lettres les unes après les autres. C'est vraiment merveilleux.
Et le conseil de Gilles ?
Pour revenir aux grandes figures culturelles, aux grands poètes, il y a au poche un spectacle sur Rimbaud et Verlaine, qui s'appelle une pièce, c'est un affrontement réécrit par le grand Christopher Hampton,
qui a fait les liaisons dangereuses.
Et voilà, c'est lui qui a inspiré le film d'ailleurs avec DiCaprio. Et là donc c'est la pièce originale, qui est une pièce qu'on n'avait pas vue en France et qui avait été écrite il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Rimbaud, Verlaine, Éclipse totale, qui est mise en scène par Didier Long, jouée par Didier Long et Julien Huguette. Et ce face-à-face de deux personnages se tourne comme ça au combat de fauves de façon étonnante. Je l'ai vu dans le Off d'Avignon, je ne l'ai pas revu au Poche Montparnasse, mais j'ai beaucoup aimé, et surtout Julien Huguette dans le personnage de Rimbaud.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Fabienne Pascot, Armelle Héliot, Gilles Costaz et Jacques Nerson pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, à la technique, au Sacha Guitry, il y avait Claire Levasseur, Fabien Capel et Pierre Costard. La réalisation était signée Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 2 mars. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions. L'une consacrée au film, l'autre consacré au livre. Dans une semaine, on parle de cinéma. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.